La fièvre des sucres est un podcast acéricole avec des voix libres, stimulantes et qui interpelle l'industrie pour amener l'acériculture au-delà de ses limites actuelles. Dans ce quatrième épisode, nos trois acériculteurs passionnés, Michaël Gagné, David Bolduc et Marco Gilbert, reçoivent l'ingénieur forestier Patrice Bertrand, qui est responsable du club d'encadrement acéricole de Portneuf. Ensemble, ils discutent de l'indice de qualité des sols, d'amendement et de chaulage, de cohabitation des usages forestiers et acéricoles en terre publique, de sirop industriel et de bien d'autres sujets passionnants. Cet épisode de La fièvre des sucres, disponible sur YouTube et Spotify, vous est présenté par la microbrasserie La Souche, avec la participation de Maple Works, une entreprise d'aménagement forestier et d'installation d'érablières, ainsi que de services acéricoles Giroux pour toutes vos solutions en soudure, TIG, fibre optique, automatisation et télécom. Ce podcast est produit par Forêt Vive, également créateur de la chaîne YouTube Le goût du territoire, une mine d'infos et de passion pour les amoureux de la foresterie, d'acériculture et plus encore. Bonne écoute de l'épisode 4 de la première saison du podcast La fièvre des sucres, intitulé Première rencontre avec Patrice Bertrand, ingénieur forestier.
Patrice, on est bien content que tu sois venu nous rejoindre pour parler. On avait quand même des questions tantôt dans nos échanges là, qui nous ont... On n'avait pas nécessairement de réponse, puis on espérait peut-être en avoir en jasant un peu avec toi.
OK. Bien, regarde, je passais dans le coin pour bien loin. Puis en plus, je savais que vous étiez ici, fait que ça me faisait plaisir de venir vous rencontrer.
Bon, tant mieux.
Ah ouais, les questions.
Vraiment, que t'en avais une, t'as une bonne tantôt, t'as soulevé.
Ouais, c'est de m'en souvenir, l'affaire, ouais. Mais... je me disais, au niveau, ben, vu que tu es ingénieur forestier, tu pourrais peut-être me répondre. Il existe l'indice de qualité de site quand on parle de faire du martelage. Puis c'est quelque chose que je suis certain que tu te sers pour prescrire un martelage. Un indice de qualité de site ou de station acéricole.
Intéressant ce que tu dis là. Je viens de te couper la parole.
Excuse-moi. C'est correct.
C'est super intéressant ce que tu dis là, mais pour l'instant, on n'a pas grand-chose à développer de ce côté-là. Mais moi, ce que je te dirais, ce serait le fun de développer, que ce soit pour essayer d'évaluer. Est-ce que moi, au niveau de mon entreprise, je suis performant ou je ne suis pas performant en fonction de la couleur et la quantité d'eau d'érable que je fais? Il y a tellement de facteurs. On va parler de fuite, mais l'indice de qualité aussi, c'est un facteur qui n'est pas à négliger et qu'on le néglige un peu, ça, ce côté-là. Bien, ça serait drôlement intéressant d'arriver et être capable de dire, OK, c'est quoi que j'ai présentement dans les mains? Puis aussi, à titre d'ingénieur forestier comme moi, pour évaluer. On dit, ça vaut 100$ d'entaille, c'est ça, mettons, une érablière, OK? Dans ton coin, c'est peut-être 160$ d'entaille dans ton coin à Saint-Jean-de-Lille.
Un petit peu moins, mais ça ressemble à ça.
mais ici, on est autour de 100$ d'entaille. Mais je te dirais, si tu pognes un site, regarde, là, t'as vraiment un site qui est plus favorable qu'un autre, vaudrait plus que 100$ d'entaille, tandis que l'autre, il vaudrait peut-être 75$ d'entaille, parce qu'on va avoir moins de coulées. Mais on n'a rien de développé là-dedans. Mais ce qui serait le fun, pour commencer, le développer, ce serait peut-être d'arriver à aller chercher des carottes, à regarder c'est quoi la croissance que tes arbres ont, puis après ça, essayer d'amener ça en fonction de ton dépôt. C'est quoi le dépôt que j'ai ici? Et comme ici, souvent, on a des dépôts qui sont très minces. Ben, c'est certain qu'avec un dépôt très mince, ça va être un petit peu plus difficile. Mais si j'arrive, puis on est dans le fond, là, pas loin de la rivière Jean-Cartier, là, on a un dépôt Lacus, puis oh, wow, t'es un peu, là, on commence à jaser, là, on n'a pas un dépôt mince, puis on devrait peut-être travailler en fonction de ça. Mais on n'est pas rendu là, mais il faudrait y aller vers ça.
C'est ce que je disais tantôt, avant que tu arrives, puis c'est quelque chose que j'aimerais voir les chercheurs de la DRF
faire.
Développer beaucoup pour la sagriculture. Ils ont fait beaucoup pour la foresterie. Puis c'est correct, mais à un moment donné, juste spécifique à l'érable, tu sais, je pense à Rock Wimet qui a fait pour le chaulage, quoi de super important, qui est quelque chose que tu te sers pour faire les prescriptions de chaulage. Moi, je fais le terrain, moi, je suis technicien, fait que je fais le terrain, je fais les échantillons de sol, je ramène ça à mon ingénieur, il prescrit avec Delphes, avec ce qui a été fait, mais au-delà de ça, c'est plus pour comparer le rendement à l'entente, je pense qu'il devrait avoir une corrélation avec un indice de qualité de site. Tu prends chez David... Ça n'existe pas, l'indice de qualité de site, mais si on l'invente, je suis certain que lui, il en aurait un bon. Puis moi, j'ai des sites où il serait très bon, puis des sites où il l'est moins. Mais ça nous dit, si lui fait 8 livres ou 9 livres sur son site, c'est peut-être juste normal, puis il est à plein rendement, mais un site qui te permettrait de faire 5, puis tu fais 5, t'es un très bon producteur quand même, tu sais. T'as fait tout ce que tu pouvais dans ta...
Dans
les conditions que t'avais pour le faire, tu sais. Puis c'était sûr qu'on avait... Ça n'existe pas, mais je souhaite dans l'avenir qu'il y ait une recherche...
Je vous permettrai de connaître nos limites.
Exactement.
Est-ce que j'ai atteint mes limites?
La limite de mon terrain de jeu. Mon terrain de jeu, c'est ça. Moi, chez moi, c'est ça. Bien, le gars qui fait 5 livres versus... un autre qui fait 9 livres ou un autre qui fait 7 livres, ben peut-être qu'ils sont au top de ce qu'ils peuvent faire. Ou peut-être que lui qui est à 9, il y a encore place à l'amélioration, puis lui à 5, il n'est pas capable. Puis le monde ne comprenne pas ça.
C'est sûr.
Puis comment qu'on se compare? Hein? On se compare par l'autre qui est dans le rang là-bas, on se compare par l'autre qui est dans le rang là-bas, puis lui a fait ça, fait que moi j'ai réussi à faire un quart de livre de plus que lui. Je suis bon.
Ouais.
Mais peut-être bien que t'es pas bon parce que l'autre là-bas, il n'y a pas un bon site. Mais toi, t'es un super bon site. C'est peut-être pas si bon que ça.
Exact.
Ou peut-être que c'est le contraire. L'autre là-bas, il est bon en tabarouette.
Moi, je veux. Ouais.
C'est grand le Québec. Tu sais, si tu pars du Témiscamingue où il se produit du sirop, aller en Gaspésie, il y a un méchant.
C'est
un méchant gap.
C'est sûr.
Il y a un méchant changement.
Puis dans la même région, puis dans le même village, dans le même terrain, dans le même coin. Même
dans ton érablière, ça, je disais.
Dans ton érablière,
tu as même des sites qui vont varier assez pour être capable de voir qu'il y a un secteur, un coin qui va être plus
performant. Qui est meilleur que d'autres.
Ah oui. Ben, tu as plusieurs stations de pompage. Moi, j'en ai des propriétaires aussi qui ont plusieurs stations de pompage. Celui-là, là, il fait du 6 livres. Il y a rien que 2000 en taille là, mais il fait du 6 livres facile. Là. C'est pas un problème. Là. Mais alors qu'ailleurs, là, on parle plus comme Saint-Jean-de-Lise. Ici, on est 4 à 5 livres là, à peu près. Là. Fait que, mais lui, il fait du 6 livres. Alors qu'ailleurs, là, je fais du 3 livres et demi, 4 livres là, mais celle-là, elle fait 6 livres. Pourquoi? On est flanc sud, bien souvent. On n'est pas loin d'un champ agricole. Peut-être qu'il y a eu un peu de dépendage de fumier, puis ça permet de... Mais on a quelque chose qui favorise ce côté-là. Là.
On en parlait tantôt. Moi, je regarde chez nous, il y a eu... Moi, je croyais à l'engrais qu'on pourrait mettre dans les érablières. Mon père a déjà fait des tests dans le passé, puis je veux pas en faire parce que, justement, si tu fais une erreur, ben ça peut être grave, mais... Tu sais, on nourrit nos champs. Oui, le champ, tu coupes tout, puis tu recommences à chaque année. Les érables, ben on prélève quand même quelque chose. T'sais. On prélève le bois qui est sorti de là, la sève qui est sortie de là. Il y a des minéraux là-dedans. On est zéro avancé.
Regarde bien, moi, c'est ma réflexion, là. Mais, mettons, on arrive dans un endroit, puis c'est une forêt, on la coupe à blanc. Je décide de faire du soya là-dedans, puis bon. Ben les 5 premières années, là, tu vas être bon pour faire du soya, là. T'as pas d'affaire à mettre des engrais là-dedans, là, tu sais. Et pendant les 5 premières... Rendu à la 5e année, là, oh, tu vas voir tes rendements soya, ils vont baisser de même, soya, en tout cas, peu importe, ça va baisser comme ça. Là, ici, il y a un gars qui est arrivé ici, là, en 1882, là, il a prélevé des gros pains pour envoyer en Angleterre, tu sais. Ben, 1700, en tout cas. Il a prélevé des gros pains. Là, il y en a un autre qui est arrivé en 1910, lui, il a ramassé, il y a des beaux brisiers, ils ont ramassé les brisiers. Il y en a un autre qui est arrivé en 1930, il y en a un autre qui est arrivé en 1985, il y en a un autre qui est arrivé en 2010. Ça fait pas loin de 5 fois où j'ai des gars qui sont arrivés ici, ils ont pris de la matière organique. Qu'est-ce qu'on a retourné au niveau de la matière organique? On n'a rien retourné. C'est pas la feuille d'en haut qui tombe en bas, la feuille d'en haut, elle vient d'en bas. Fait qu'on n'a rien retourné là au niveau. Mais on a pris à peu près 5 fois de la matière organique. Je reviens avec mon site agricole.
Ouais.
Si je prends 5 fois... au bout de 5 ans, mes rendements tombent. Ça me prend du fumier.
Ça prend de l'engrais,
ça me prend quelque chose. Fait que, mais y a là, pas on est rendu, là, on est rendu là.
Il n'y a pas d'études de fait.
Oui, non, il n'y a pas d'études de fait. C'est toutes des informations de même qu'on prend à gauche et à droite, là, du visuel, de ce que des gars disent, comme moi, comme un producteur va dire. Mais moi, j'ai... Ça fait longtemps qu'on fait du chaulage dans les érablières. Tu as parlé de Rock Wimette tout à l'heure. Là. Nous autres, j'ai été un des premiers à développer un épandeur pour épandre la chaux dans les érablières. Fait qu'on a commencé à en épandre en 2008, la chaux. Il y a des endroits où on arrive là. Là, on regarde ça, on dit « Wow! Qu'est-ce que ça... » Oh! de sa péripopette que ça a bien fonctionné!
Ben, c'est flagrant. Moi, je suis allé visiter un érablière et l'acheter l'année passée. Le chemin de ligne était là entre les deux érablières. Le côté gauche avait été chaulé, il y a 10 ans. Le côté droit, il l'avait pas été. Le côté droit était à vendre. Okay. Je l'ai pas acheté.
Okay.
Il était dépéri. Il était aucune régénération. Côté gauche, full régénération, au cœur des périssements. Okay. C'était deux visions de propriétaires différents. L'aménagement n'avait pas été fait de la même manière. Mais au-delà de ça, il y avait eu un chaulage. Puis, sur le coup, c'est pas évident, mais après 10 ans, t'as du recul un peu plus. Ouais. Là. Puis ça en était frappant. Ça en était frappant.
C'est parlant, ça. Tu sais, t'as vraiment... Tu sais, c'est pas genre un site à 2 km ou 8 km.
C'était deux voisins sur le même flanc. Il y avait rien, c'était pas l'écoulement de l'eau, c'était vraiment la chaux, l'aménagement forestier. Okay. Un était, c'est sûr, un avait été fait de le 10 ans, il avait son propre étendard, pépandard, bien en disant. Mais c'est sûr. Mais tu sais, ce que je voulais dire, c'est qu'on a besoin d'un développement de la recherche acéricole.
C'est clair.
Au niveau.
Ça en fait au centre-serre. Oui. C'est parce qu'on a certains budgets, puis il faut qu'ils rentrent leur projet de recherche à l'intérieur de ce budget-là.
Mais moi, je pense que c'est la DRF. Pour moi, c'est la DRF qui a fait ça. C'est la direction de la recherche forestière, c'est de la foresterie.
C'est pas du développement de matière ligneuse. Là, on parle politique, là. Ouais, c'est pas du développement de matière ligneuse.
Je suis d'accord. Donc. Mais une érablière au Québec, que ce soit en tête de
l'école ou privé.
On va pousser le point. Qu'elle soit publique ou privée, une érablière devrait être protégée au Québec. Présentement, là, ce que j'ai vu sur le terrain, c'est des saccages chez le public. C'est pas compliqué. Et c'est de la coupe à diamètre limite avec un autre nom.
Ouais.
Moi, quand j'ai fait mon cours de foresterie en 2004, en tout cas de 2001 à 2004, on m'a expliqué que la coupe à diamètre limite, on n'en faisait plus. Puis là, on y a amené un nouveau nom. Non, mais ça, c'est encore pas pire, je trouvais. Mais là, c'est la... une érable de 40 cm, quand même, ça va être intéressant. Tu sais, elle est le fun en 1 pouce, mais plus le fun à 16.
Oui, oui.
Mais à 16 pouces, il y a la coupe. C'est ça que je vois sur le terrain, moi, présentement, c'est
un public. À 16 pouces, c'est wow là, pour la sériculture.
Puis après ça, on nous dit, ça, c'est pour préparer la relève à séricole. C'est ce qu'on se fait dire par le ministère. C'est décevant. C'est décevant, c'est pas de la
sériculture. Il y a plein de sujets dans ton affaire. Là, ça me fatigue. Parce que là, on parlait de chaulage, on vient d'arriver dans un autre sujet complètement.
On pourrait y toucher tout à l'heure.
C'est important aussi, ce sujet-là.
Ben oui, c'est important.
Je te laisse aller. On vide du côté le chaulage, puis amendement, puis après ça, on vient à ce sujet-là.
Il faudrait que tu montes. On peut faire ça.
Ben, ce que je voulais dire, c'est j'arrive, puis regarde, on voit que ça a tellement bien fonctionné. J'arrive à d'autres secteurs, on vient sur le chaulage. J'arrive à d'autres secteurs, puis on a l'impression qu'on n'a rien fait. Vraiment. Puis j'ai la bonne prescription. Okay. Après un chaulage, j'ai la bonne prescription. Puis, calice, on dirait qu'on n'a rien fait. On a du dépérissement là. Puis... Mais là, ce que je me suis aperçu, c'est souvent sur des sols minces. Fait qu'on a mis de la chaux, c'est bien correct, c'est super. Mais c'est quoi que ça fait, la chaux? Ça fait en sorte d'augmenter ton pH, ce qui va te permettre de prendre les éléments minéraux qui sont là, puis ils deviennent admissibles à la plante.
Il y en a okay? pas.
Mais il y en a pas.
Mais Christ, t'en as pas!
C'est ça.
Fait que là, dans notre club, nous autres, qu'on a fait cette année, là, on est à la quatrième année, là, je récolte de l'eau. Nous autres, ce qu'on a fait au niveau du club, c'est qu'on a un arpent, c'est un témoin, on n'a rien fait. L'autre arpent à côté, on a mis de la chaux. C'était un peu comme un témoin parce qu'on sait un peu que c'est que ça fait la chaux à ce temps. Mon troisième arpent, on a mis une tonne de fumier, l'équivalent d'une tonne à l'hectare sur un arpent. Puis le quatrième set, on a mis chaux, 2 tonnes à l'hectare, l'équivalent de 2 tonnes à l'hectare, avec une tonne de fumier aussi associée à ça. Et là, on regarde évoluer ça. Et là, ça donne des très beaux résultats. Pourquoi? Ben parce que je reviens de redonner là, la matière organique qu'on a enlevé les 5 dernières... pas les 5 dernières données, mais les 5 dernières interventions qu'on a faites. Je viens de redonner une partie de la matière organique. C'est certainement pas
tout. Moi, j'aime ça. C'est quoi que c'est quoi comme
fumier? C'est super le fun comme résultat.
Moi, j'adore.
On n'en parle pas ici. Parce qu'on veut que ça soit les 5e, OK?
C'est bon.
Puis la 5e année, ça va être l'année prochaine.
On en parle
l'année prochaine. L'année prochaine, quand on aura nos résultats. L'année prochaine, quand on aura nos résultats, là, on va commencer à vouloir publier des choses. Mais ça sera petit, c'est pas un article scientifique. C'est rien qu'un secteur de même.
Non, mais c'est mieux que scientifique.
Des fois, ça part de là.
Oui, exactement. Il faut faire des essais pour voir à quoi qu'on peut arriver. Qu'est-ce qui peut
arriver? Là, ce qu'on fait, c'est qu'à toutes les études, on fait une analyse foliaire dans chacun de mes secteurs. Ensuite de ça, on prend aussi la croissance de mes arbres pour chacun de mes secteurs. Puis, durant la saison des sucres, j'ai un système là, qui récolte de l'eau. Fait que là, j'ai des bouteilles. Fait que là, on est capable de dire la quantité d'eau récoltée sur le secteur chaud-fumier versus rien. Parce que ça coûte plus cher un peu. Fait que là, là-dessus, c'est rien que chaud-fumier, chaud, Hop.
Vas-y.
Chaud fumier, merci. Chaud fumier, tu me le permets. Contre le secteur, rien du tout.
Ben ouais.
Puis c'est le fun. Là,
moi, j'ai un producteur que je connais, Vincent, à Frampton. Vincent, lui, à chaque année, il étend du fumier cubé de poule dans son érablière.
C'est ça qu'on a mis
des secteurs. Ben. Puis il ne joue que par ça. Mais il dit, je peux pas juger de ce que ça fait comme croissance ou comme gain, mais je le vois. Puis à Frampton, un 5-6 livres à l'entour, c'était deux. C'est pas Frampton, c'est pas Saint-Jacques-de-Lys. C'est plus froid, c'est plus haut. Puis il sort à chaque année son rendement. Puis moi, dans ma tête, un érable qui pousse, c'est un érable qui coule. Ça a toujours été.
Vas-y.
Il y a un producteur qu'on connaît, son père avait mis du fumier de poulet. Là.
Ouais.
Ça a été efficace.
Oh, oui.
Il y a une étude au centre Asser, OK, qui vient corréler la largeur des cernes annuelles versus la coulée d'eau d'érable. Okay? Plus ton cerne annuel est large, plus tu vas faire de la sève, okay? Plus tu vas récolter de la sève. Ben là, moi, je le vois dans mon secteur que mes croissances sont meilleures là où on a mis du fumier chaud versus rien pantoute. Ça, je dis ça de même parce qu'il y a des choses qui se disent présentement. Là, regarde, si tu me fais, tu mets des engrais chimiques. Parlons d'engrais chimiques. Si tu mets des engrais chimiques, ben, tu vas tout le temps être obligé d'en revenir d'année à année, parce que sinon, ton érablière, elle va dépérir, puis tu vas perdre ton érablière. Là, c'est pas de l'engrais chimique qu'on a mis, et on a augmenté la croissance de mes arbres. Si j'augmente, puis ça peut continuer dans le futur de même, peut-être qu'on n'est pas obligé de revenir toutes les années. C'était bien, là, tel ton gars, je le connais, je connais pas.
Ben lui, il traite un secteur par année.
OK, c'est pas tout à la même place.
Non, mais tu sais, il dit, moi, je mets, il y a 20 000 lentilles, il me semble, si je me souviens bien, il dit, moi, je mets une pièce lentille en investissement sur mon érablière. Il dit, je mets 20 000 pièces de fumier cubé par année, puis je traite, puis il dit, quand j'aurai fini, je vais recommencer. Mais tu sais, il y a peut-être compost qui pourrait être intéressant, parce que ça serait facile à étendre.
Ça pourrait être aussi.
Biochar. Tu sais, il y a plusieurs choses qui... Moi, ma demande, c'est un vœu pieux, mais c'est que, Criff, justement, la DRF s'intéresse à ça. S'intéresse à ce qui est rentable en forêt. Ce qui est rentable en forêt, dans les érablières, c'est de faire du sirop. C'est pas de faire du bois.
Ouais.
Faire du bois, c'est le fun. Peut faire les deux.
Quand j'ai mis le fumier, là j'ai été consulter des agronomes. Parce que je me suis dit, ça va être au niveau des agronomes que je vais être bon pour aller chercher d'informations. J'en ai pas. J'ai battu une tonne à l'hectare. J'ai battu deux tonnes à l'hectare. Personne n'a fait ça.
On sait pour la production de pommes. Mais on ne sait pas pour la production. C'est pas
un vrai sol. Production de pommes, c'est pas un vrai sol forestier.
Mais non, mais c'est des arbres pareils qu'on nous. Tu sais, on nous dit mets du fumier, c'est bon pour tes. Tu sais, que tu pars un verger, ils vont te faire ça. Mais ils le font pas pour l'érablière. Mais au final, notre production à céréales se rapproche beaucoup plus de l'agriculture que de la foresterie. Pour moi, c'est un beau mix entre les deux, mais on a besoin, je pense, de nourrir. En tout cas, moi, j'ai besoin de recherches qui me disent de nourrir mes entailles
pas. Il n'y a pas de connaissance là-dedans. Moi, là, j'ai mis une tonne à l'hectare. C'est-tu une tonne? Ben là, je ne le sais pas.
Ouais.
J'y a-tu une récurrence à revenir à toutes les 3 ans, 5 ans? Je ne le sais pas. On n'a aucune idée. Fait que c'est à faire des petits projets de même comme ça, si on n'est pas... Si la DRF ne veut pas embarquer là-dedans ou quoi que ce soit, si on n'a pas été en mesure de développer des budgets pour ça, ben ça va être d'essayer d'aller récolter des informations à gauche puis à droite puis essayer de faire des choses. Là. En tout cas, nous autres, on fait notre petite part là, de notre bord.
C'est correct de le faire.
Oui, c'est bien.
C'est bien. On espère maintenant avoir une recette à mettre pour encore améliorer nos rendements.
Oui, mais une recette, mais ça va être une recette qui va être... en fonction de tes besoins.
Ben oui.
On ne peut pas arriver, là, parce qu'il y en a peut-être qui vont écouter ça, ils vont dire « Je mets une tonne demain matin. » Attends un peu, là. Commence par aller chercher un ingénieur
forestier, faire
des analyses de sol, après ça. Puis là, de la manière que moi, je m'en vais, c'est la première fois, ça va être une analyse de sol. Après ça, un coup, tu auras mis de la chaux. Là, on pourra aller vers des analyses foliaires. C'est beaucoup plus poussé, c'est pas mal plus intéressant une analyse foliaire qu'une analyse de sol. Mais pour une première fois, on y va avec une analyse de sol. On a-tu épuisé notre sujet?
Celui-là, oui. Là,
après ça, il y avait là.
Je veux pas qu'on y aille.
Sujet pour ici. Non,
on a un autre. L'aménagement forestier.
Parce que là, je m'en allais vers ça. Puis là, aussi, j'avais pas fini de parler de mon autre bord.
Je veux pas t'amener à quelque part qui va te mettre
dans le groupe. Au contraire, avec toi, puis en tout cas, allons pas plus loin là-dessus, ça me dérange pas. Mais moi, dis une affaire, je ne nommerai pas le nom, ça m'a fatigué. C'est environ 2-3 semaines à la radio de. Je ne veux pas identifier à personne, c'est un ingénieur forestier, il a été dire que le développement acéricole était incompatible avec le développement forestier. Ça c'est un discours là, de 1990. C'est pas un discours d'aujourd'hui. Puis j'ai fait, là, 2 ou 3 ans, c'était peut-être un petit peu avant la COVID, ou durant le temps de la COVID, en tout cas, mettons 2-3 ans, peu importe, là. On avait une petite problématique dans notre coin, puis il fallait que je fasse un petit topo à notre député, OK? Fait que, pour faire... Ah, c'était durant le temps de la COVID, on avait fait sans autre. Fait que, pour faire le topo au député, j'ai dit, je vais faire comme une simulation, OK? Ou alors, mettons, on arrive sur terre publique, là, on parle de terre publique. Fait que, on va faire une simulation. Mettons, j'arrive, là, moi, on est une érablière à vocation acéricole, bien, qui va être à vocation acéricole? Je rentre dans mon érablière, je fais un premier aménagement acérico-forestier. Moi, je dis, on fait un aménagement acérico-forestier, on va aller chercher pour un premier aménagement acérico-forestier à peu près 20 % de la surface terrière. OK? Parce que bien souvent, il y a des gros êtres malades, il y a ci, il y a ça. Fait qu'on va aller chercher environ 20 %. Si on regarde au niveau forestier, eux autres, ils vont rentrer à la même année, à l'année zéro, eux autres vont aller chercher environ 35 % de la surface terrière. Je reviens dans notre bord. Nous autres, mettons, 20 %, c'est surtout pas des beaux bois qui vont sortir, c'est beaucoup de la scrap, hein, des bois de pâte qui vont sortir. Là, nous autres, on installe nos tubes. Là, les tubes, c'est à peu près bon pour 15 ans, les tubes. Là, on va revenir, on enlève nos tubes, on va remettre nos 5-16. Quand je dis tubes, c'est juste les 5-16, les mètres libres sont bons plus que 15 ans. Là, on enlève nos 5-16, là, ça va à peine de revenir sur le terrain, et là, on va faire un aménagement d'environ 15 %, OK? Là, on va justement encore là faire enlever des arbres que je sais qui, dans 15 ans, ils ne seront pas là, puis ils vont tomber sur mes mains, tu sais. Fait qu'on va aller chercher 15 %. Donc, à toutes les rotations de 15 ans, je vais aller chercher 15 % de la surface terrière.
Ta rotation de 15 ans équivaut à peu près à ta rotation de jardinage, que tu aies des tubes ou pas, si je ne me trompe pas.
Oui, que j'ai des tubes ou pas. C'est vraiment un aménagement acérico-forestier.
Mais si tu fais du jardinage typique qui n'est pas acérico-forestier, tu as une récurrence aux 15 à 20 ans quand même.
La récurrence est à peu près aux 25 ans. Okay. Fait que j'ai enlevé 35 %, on vient à peu près 25 ans
plus
tard.
Tu vas passer plus fort, mais moins souvent. Là, on passe plus souvent, mais moins fort, mais le volume, au final.
Ça revient
au
moins.
60, je sais de là, je ne m'en souviens plus, là, j'aurais pu amener ma simulation, mais environ 75 ans, OK? Au bout de 75 ans, c'était sensiblement les mêmes volumes de bois qui étaient sortis de là. On est les mêmes volumes de bois. Je peux comprendre que le gars qui a série là-bas, OK? Lui, il ne veut pas avoir le volume de bois dans 75 ans. Il va mourir, monsieur, avant. Il va prendre sa retraite avant, tu sais. Fait que lui, il veut l'avoir tout de suite. Mais là, on parle du gouvernement du Québec. Ça, c'est le gouvernement du Québec, c'est ça n'a pas, de fin de vie, ça, là. T'sais.
Collectivement, pendant ces 75 ans-là, tu génères du sirop d'érable.
Ouais.
Tu génères de l'activité économique dans ce niveau-là. Puis en plus, tu génères la même quantité de bois, ou presque. Fait qu'au final, le gouvernement va tirer son argent de vendre le bois. Je cherche le mot, puis je...
Les redevances.
Les redevances sur le bois. Les redevances, c'est location des rabières. Puis, ça va entretenir les chemins année après année au lieu de repasser aux 25 ans. Parce que le gars qui a son érablière, les chemins forestiers, il va les entretenir. Mm-hmm. Parce que sinon, on le sait très bien que les chemins sont délaissés entre les récoltes de bois. Mm-hmm. Puis, en tout cas, pas les principaux. Mm-hmm. Mais ce qui est les fourches, c'est délaissé. Mais les... Fait que c'est recommencé. C'est des investissements à remettre à travers le temps. Fait que moi, pour moi, il n'y a pas d'incohérence. J'en ai une sur le privé, puis c'est ce que je disais tantôt quand tu n'étais pas là. Je génère une vingtaine de vannes de bois de pâte par année sur mes érablières. Je génère du boîtier qui alimente en partie, c'est minime, mais j'alimente un moulin, tu sais, un moulin local. Comme ça devrait être.
Ben oui.
Et ce bois-là... Il est sur le marché quand même. Ouais. Il est là. C'est... Mm-hmm. Bon, je comprends pas l'industriel qui se braque contre l'acérico.
Ben lui, il veut tout de suite des belles billes de siège. Ben là, à quelque part, là, on peut dire, non, regarde, il y aura du volume de bois qui va sortir, c'est beaucoup plus de pâte que de siège. Mais de temps en temps, t'en as un siège. Des fois, là, t'arrives, là, regarde, cite, là, c'est, oublie ça, là, l'arbre est cru. Fait que je veux pas le goût de mettre mon chalumeau là-dedans. Mm. Mais tu regardes la deuxième et la troisième bille, t'as du siège là-dedans, là. T'en as du siège qui va sortir. Mm. La première année n'a pas bien. La première rotation, là. Mais la deuxième rotation, quand on enlève notre 15%, il y en a un petit peu plus. Il y a un petit peu plus de sièges. Là. Fait que là, ça augmente tranquillement pas vite. Fait que ces redevances au niveau du gouvernement vont avoir quand même une certaine quantité de redevances de sièges et non pas juste de pâtes. Mais là, comme tu l'as dit tout à l'heure, ben, tu as aussi les bails. Hey, c'est 125$ de l'hectare qui rentre pour d'un coffre de l'État. Ça, c'est drôlement intéressant. Si le gars qui vient ici puis qui revient 25 ans plus tard avec sa grosse machinerie, premièrement, cette machine-là, elle arrive de où? Elle arrive de Stockholm. Elle arrive de John Deere aux États-Unis. C'est pas fabriqué au Canada. Ça vaut $1 million. Chris, ça perdu pas peine, ça perdu pas peine.
On est rendu à 5 chiffres, mais c'est quand même ça moi-même.
Le premier million de dollars de bois qui sort de là, ça s'en va à l'extérieur du Canada. Ouais. Tabarnouche! Hey! Fait que là, nous autres, là, le gars qui s'en vient bûcher de chez vous, tu bûches avec ton petit tracteur, tu bûches. Ça se peut que ça soit où tu vas te faire venir aussi mais une petite abatteuse, mais il y en a bien, c'est avec les petits tracteurs. Fait que t'as pas $1 million qui sort de là, qui sort du Canada pour récolter les premiers bois, là.
Puis ce qui est investi, pour te suivre, ce qui est investi pour mettre en forêt, sa tubulure est faite au Québec. Les évaporateurs, aussi. Pour la plupart, ouais. sont faits de site, les osmoses aussi. Mm. Je veux dire, on fait tourner notre économie, puis on exporte le sirop d'érable.
Ouais. Sur un hectare, oui, là, je te coupe la parole.
Ah, vas-y.
Sur un hectare, OK, là, t'as, sur une rotation de 25 ans, comme on a parlé tout à l'heure, là, t'as peut-être l'équivalent de 3 gars qui ont travaillé pendant, mettons, ça fait 3 jours hommes sur un hectare, sur 25 ans qui ont travaillé là. En acériculture, là, t'as... Pas 3 jours hommes sur 25 ans. Tu vas avoir 3 jours, bien plus que 3 jours hommes, il faudra calculer sur un hectare, tu as combien de jours hommes sur que, à l'hectare par année? Par année. Chris,
c'est pas mal, là. C'est 3 fois plus. C'est plus que 3 fois.
Ben, j'avais calculé vite demain, je ne suis pas un économiste, okay? Mais ça rapportait au gouvernement du Canada, du Québec, pardon, ça rapportait 800% plus d'argent au gouvernement du Québec, une érablière à vocation acéricole que ligneuse. 800%! Puis là, j'ai pas calculé le gars, là, qui achète des tubes, puis que là, il faut qu'il retourne au village en acheter là-bas parce qu'il a oublié quelque chose, puis on en remet là, puis ainsi de suite. J'ai pas calculé ça, là, moi, là. J'ai juste calculé les redevances qu'on avait quand on donnait au gouvernement à l'État.
Ça nuit. 800%. Puis ça nuit pas au bûcheron. Ça nuit pas au gars qui a les machines. Lui, il va bûcher quand même.
Non, il va bûcher quand même. Là. Il y a quand même du monde qui va être bon de travailler là.
Le marteleur qui va passer, le martelage va être différent, mais le gars va passer, il va avoir un marteleur qui va passer quand même. L'ingénieur va prescrire différemment, mais il va travailler quand même. C'est, ça génère beaucoup plus que la forêt. Puis on a moi, pour moi, dans l'érablière, on y va pas à 100% là-dedans. Tu sais, on se restreint. Moi, j'ai travaillé beaucoup au Témiscamingue. Le Témiscamingue est une région où il y a de l'érablière. C'est sous-développé, ça n'a aucun sens. C'est d'un bel érablière du Québec. Là, il y en a là-bas. Il y a du rendement possible. Il y a d'autres problèmes. Il y a des accès qui ne sont pas là. Il y a des lignes électriques qui ne sont pas là. Mais tout ça peut se développer si tu développes la sériculture. Mais si tu coupes à blanc ou pratiquement des érablières en faisant de la coupe à diamètre limite avec un autre nom, ben tu ne génères pas ça. Tu sais, je vais t'amener, Patrice, sur... le développement de la région de Stoneham-Tewksbury, tu penses qu'il y a un beau potentiel ici?
Oui, ton lien à des nœuds. Je pense que c'est quand même que je m'en reviens dans le sud du Québec. C'est parfait. Mais... C'est la même chose ici. Là, c'est pas développé. Si on va dans la région de Saint-Hubert, Saint-Albin, là-bas, il y a un arpent avec 70 érables, puis il y a 4 acheteurs pour l'acheter. Okay, t'sais? Il y a du monde là, qui développe. Là. Mais ici, là, c'est pas encore développé. Il y a encore un gros potentiel. Il s'agit juste d'arriver avec quelques promoteurs, selon moi, avec quelques promoteurs qui vont démontrer, regarde, il y a moyen de vivre avec ça, il y a moyen de développer des entreprises. Je vais faire vivre ma famille, je vais même peut-être faire vivre d'autres familles aussi. Puis là, après ça, je pense que ça va faire des petits... Là, l'autre, il va regarder, il dit, ah, Vernouche. Ah ben oui, s'il l'a fait, pourquoi je ne serais pas capable de le faire? C'est pas le même principe que le gars qui vient de partir sa cabane à patates frites dans le village qui fait de l'argent, puis l'autre à l'autre bout, là, dans du village, il dit je vais te n'avoir une aussi une cabane à patates frites. Là, les deux, ils meurent parce qu'ils.
T'espères qu'ils s'entraident plutôt qu'à être en compétition.
C'est pas ça, ici, là. La sériculture, là, c'est probablement le sirop d'érable, c'est probablement le produit agricole qui a le plus d'avenir. Tu sais, on va faire du lait. Hey, l'Africain, il va en faire du lait. Le gars de Mexique, il va faire du... Tout le monde est capable de faire du lait. On va en faire en Islande du lait. Du sirop d'érable. Ça va être difficile de faire du sirop d'érable en Islande et au Mexique. Hein. Fait que, il y a juste nous autres, le nord-est de l'Amérique du Nord, qui est capable de faire du sirop d'érable. Puis on n'est même pas capable de vendre à partout encore. Le marché est tellement à développer encore.
Oui. On parlait tantôt. Un, oui, le marché est à développer, mais deux, là maintenant qu'on n'a plus de réserve, tu sais, le sirop industriel a mauvaise presse, mettons. Là. Mm. Mais là, actuellement, il n'en a plus. Ouais. Puis, ce qui va arriver, j'ai peur, ce qui arrive, c'est pareil comme en 2008-2009. Il en a manqué. Les acheteurs se sont virés de bord vers un sucre alternatif. Ce marché-là a perdu. Fait que, il y a mauvaise presse, mais il y a sa place. Fait que là, quand tu n'es pas capable de fournir l'industrie, l'industrie se revire de bord, puis trouve une alternative. Puis après ça, regagner ces marchés-là, c'est hyper difficile alors qu'on avait des marchés. Fait que, peu importe le sirop d'érable, faut que ça soit un bon sirop ou un sirop industriel, faut le valoriser, puis faut en faire pour ne pas perdre des parts de marché.
Ben, je pense qu'on va avoir un problème cette année au niveau des sirops industriels.
Oui, parce qu'on n'a pas une saison de sirops industriels.
Exactement.
On a eu une saison de bons sirops.
Hein?
Il va y avoir une rupture de stock de sirops industriels.
J'ai plein de monde là, qui ont pété le contingent solide et puis ils sont encore dans du bon sirop. Puis ils disent, regarde, là, il faut que je m'achète des barils, puis c'est plus dur de trouver des barils que de trouver une pépite d'or. Fait que là, le monde
arrête.
Fait que là, mais ils n'ont pas produit de sirop d'industriel.
Non.
Ou presque pas.
Puis,
je pense qu'on a des problèmes, tout à l'heure.
Oui, on en parlait tantôt. C'est sûr qu'on a un problème là-dessus. Ouais. Peu importe le sirop, il y a une valeur, puis il y a un marché. Puis il ne faut pas confondre les deux. Puis le monde, on a la mauvaise habitude de dire, il goûte pas bon. C'est pas bon.
Le goût de l'industriel n'importe pas.
Le goût n'est
pas. L'industriel.
Exact. Fait de l'alcool.
L'important, c'est l'alcool.
C'est l'alcool.
C'est le sucre.
Oui, l'important, c'est l'alcool. On en parle. Ouais, mais regarde.
On se mêlé comme faux, là. mais c'est ça. Mais tu sais, le sirop industriel, moi, on n'a pas commencé notre saison encore de ça. Bon, on ne se rendra pas, malheureusement. La saison ne nous permettra pas d'y aller. Mais une rupture de stock, peu importe, le goût du sirop va toujours être négatif pour le marché. Tu sais, il y a planté en 2008-2009, tu disais, puis
il en a manqué.
Ça risque d'être la même chose, malheureusement.
Oui.
Puis c'est un sirop parmi tant d'autres qu'il faut passer. Il ne faut pas le dénigrer.
Non.
Moi, le goût, à la fin, je m'importe peu. Il m'importe peu. C'est parce que c'est pas un sirop qui va se ramasser dans une canne ou dans une
bouteille.
C'est pas là qu'il faut qu'il y ait ce sirop-là. Tu sais.